Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo du monde.
Chienne Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Le Conseil des ministres a adopté mercredi dernier un projet de loi électorale. Ce texte consacre la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il apporte aussi des innovations dans les élections au Mali. Selon le gouvernement, ce projet de loi permettra de réduire le nombre de structures intervenant dans l'organisation des élections, de garantir l'efficience, la performance et la crédibilité dans la gestion des élections, mais une partie de la classe politique rejette ce document. Et celle-ci estime qu'elle n'a pas été consultée lors de son élaboration. Projet de loi électorale, que dit le texte? Nos invités sont Boulan Baro du parti CENID, Congrès d'initiative démocratique CENID Faso Iriwaton, et Dora Cheikh Diarra de SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Également docteur Ibrahima Sango de la Synergie 22, un consortium d'organisations qui observe les élections au Mali. Je suis Sekou Gadjigo pour présenter ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, chers invités, merci d'être là. Nous allons commencer par vous poser cette question à tous les trois. Nous allons commencer par Boulan Baro, bien sûr. Avez-vous participé à l'élaboration de ce nouveau projet de loi électorale?
Bonsoir tout le monde. D'abord, en tant que parti politique, je ne pense pas que nous pouvons participer à l'élaboration d'un projet de loi, parce que l'initiative de la loi appartient au gouvernement. Mais au niveau de la direction du parti, la réflexion concernant la loi électorale ne s'est jamais arrêtée. Constamment, à chaque élection, après chaque élection, avant chaque élection, il y a toujours une commission qui travaille sur ça. Donc, c'est de forme constante. Là, les débats portant sur la loi électorale a été toujours un débat constant au niveau de la direction du parti du CENID Faso Iriwaton. Donc, ce débat ne s'est jamais arrêté et nous continuons à mener ces débats.
Donc, vous avez été consulté?
Tout naturellement, comme tous les autres partis politiques, nous avons tous participé aux échanges, les cadres d'échanges qui s'est organisé entre le gouvernement et les partis politiques concernant les réformes politiques et institutionnelles. Nous avons participé, nous avons donné notre point de vue. Maintenant, le projet reste toujours un projet, ce n'est pas encore adopté. Donc nous allons continuer davantage à apporter notre contribution pour rendre perfectif la loi. Au niveau à l'adoption.
D'accord. Dora Cheikh, vous êtes du parti SADI. Est-ce que le SADI a été consulté avant l'élaboration de ce projet de texte?
Non, le SADI n'a pas été consulté avant l'élaboration de ce projet. Il faut dire que c'est vrai que l'initiative appartient à l'État d'initier des projets de loi qui doivent être adoptés par le législatif. Mais quand il s'agit de la loi électorale, dans une période de transition, ou même à la veille des élections, à la matière, on demande un consensus, donc la consultation de tous les acteurs qui peuvent être concernés par la loi. Donc nous n'avons pas été consultés par rapport à l'élaboration de ces projets-là.
Ok. Ibrahima Sango, vous en tant qu'observateur, est-ce que vous avez été consulté? Est-ce que vous avez participé aux travaux en prélude à l'élaboration de ce texte?
Bien sûr, nous avons participé aux travaux préparatoires. Et ce qu'il faut rappeler pour cet organe unique de gestion des élections, c'est que dans le premier gouvernement de la transition, le gouvernement avait notifié que cela n'est pas possible, vu le délai récent de la transition, que ce n'est pas possible de mettre en place un organe unique de gestion des élections. Mais depuis que le nouveau Premier ministre est venu, Choguel Kokalamega, il a dit que sa priorité, c'est de mettre en place l'organe unique de gestion des élections pour encadrer les élections. Et cela se justifie parce que quand on se réfère à la crise politique de 2020, beaucoup de gens sont pleins des organes existants, notamment le ministère de l'administration territoriale, la CENI, la Direction générale aux élections et même la Cour constitutionnelle. Donc il fallait mettre en place un organe unique de gestion des élections qui va pouvoir organiser toutes les phases des élections, qui va proclamer aussi les résultats définitifs des élections. Mais avec le nouveau projet de l'électoral, on n'est pas arrivé à ce stade. Donc ça, c'est des questionnements qui demeurent à notre sens.
D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi?
Bon, le projet de loi, nous l'avons analysé pour un premier départ. Ça, c'est nos premières impressions qu'on a eues. C'est que l'organisme de gestion des élections qui a été créé ressemble à la CENI de 1997. Parce que l'organisme de gestion des élections qui est proposé dans le projet de loi électorale va organiser les élections, donc va prendre les attributions du ministère de l'administration territoriale, de la CENI, de la Délégation générale aux élections, et va proclamer les résultats provisoires. Mais jusqu'à présent, les résultats définitifs doivent être proclamés par la Cour constitutionnelle. Et c'est là qu'il pose problème, parce que toutes les réformes que l'ensemble de la classe politique, des organisations de la société civile veulent, c'est qu'il y ait un organe unique de gestion vraiment indépendant et qui proclame les résultats définitifs. Comme ça, si les gens ne parviennent pas à s'entendre, ils vont se référer à la Cour constitutionnelle.
D'accord.
Mais l'organe qui est créé aujourd'hui, il ressemble à la CENI de 1997, qui avait les mêmes attributions que l'autorité d'aujourd'hui.
D'accord. Mais il n'y a pas que l'organe unique de gestion dans ce projet de loi électorale. Boulan Barreau, est-ce que vous avez des points de satisfaction par rapport à ce projet de loi, de façon générale ?
C'est ce que j'ai dit. Nous n'avons jamais cessé d'interroger notre pratique électorale au Mali. À chaque fois quand il y a des élections, et surtout après les élections, nous sommes amenés à interroger notre pratique électorale. Il y a toujours des défaillances. Donc j'ai dit clairement que ça reste toujours un projet et nous allons continuer à accompagner ce projet pour rendre le projet perfectif. Donc la loi n'est pas encore adoptée. Mais la procédure tendant au gouvernement d'initier la révision de la loi électorale dénote de la volonté ferme, de la volonté politique du gouvernement de réformer notre pratique électorale. Et cela est extrêmement important. Ça nous a fait allusion aux élections précédentes. Toute la crise que nous avons aujourd'hui, au-delà de la crise sécuritaire, quand on enlève l'aspect électoraliste, il n'y a pas grand-chose. Et aujourd'hui, tout l'enjeu du débat politique aujourd'hui est centré sur les élections. Alors, il faudrait quand même qu'il y ait un cadre qui réglemente cette élection-là de nouveau. Donc, c'est extrêmement important. C'est-à-dire le débat continue, le débat n'est pas bouclé.
Donc,
nous allons continuer à respecter la procédure
donc,
selon vous, pour l'adoption d'une loi.
Ce texte va permettre d'éviter les contestations, les crises post-électorales.
Le texte n'est pas bouclé, nous allons continuer à contribuer. Nous avons beaucoup de... Par exemple, moi, je prends un exemple banal. Il faut rendre obligatoire les débats contradictoires entre les deux candidats. S'il y a lieu qu'il y a deuxième tour aux élections présidentielles. C'était une pratique qu'on a fait en 92. Mais depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, ça, il faut rendre ça obligatoire. Que cela soit inscrit dans la loi électorale, qu'en cas de deuxième tour, lors des élections présidentielles, qu'en cas de deuxième tour, qu'on oblige à ce qu'il y ait un débat public entre les deux candidats au deuxième tour.
D'accord.
Ça, c'est extrêmement important.
D'accord.
Parce que c'est ça qui va nous amener à éviter des candidatures qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de projet pour le Mali.
D'accord. Doura Cheikh, au niveau du parti Sadi, est-ce que, bien que vous n'ayez pas participé aux travaux préparatoires de l'élaboration de ce projet, est-ce que vous avez analysé un peu, que pensez-vous de ce texte ?
Bien évidemment, nous avons analysé les projets et les projets que nous avons sous les yeux confirment en bonne partie ce que le parti avait déjà pensé par rapport à la réforme, à la révision de la loi électorale. Il faut le dire, bien avant, nous avons tenu une conférence de presse pour donner notre position par rapport à ce projet de création d'un organe unique qu'on a appelé dans le projet autorité indépendante, n'est-ce pas, de gestion des élections. Nous avons dit que pour nous, c'est compliqué. Mais quand nous avons vu le projet, nous avons dit effectivement, on avait bien vu. Et il suffit seulement de comprendre que les outils et les instruments qui étaient utilisés dans le cadre de la gestion, de l'organisation des élections ont été diagnostiqués. Ces outils et ces instruments ont présenté certainement des lacunes. Mais le gros problème en réalité, c'était beaucoup plus l'application de la loi. C'était en réalité le problème. Et donc, nous avons dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas en changeant de nom, ce n'est pas en réunissant tous les pouvoirs des différents organes qui intervenaient dans le cadre de l'organisation des élections dans les mains d'une seule autorité, que le problème sera réglé. Surtout que cette autorité-là, en tout cas par rapport au projet qui est déjà déposé sur la table, cette autorité ne sera pas indépendante. Pourquoi ? Pourquoi elle ne sera pas indépendante ? Parce qu'il est clair, quand vous prenez l'autorité indépendante, vous prenez l'article 6 et l'article 15, vous analysez bien ces articles-là, eh bien, les membres du collège, qui choisit les membres du collège ? Eh bien, une commission de sélection. Cette commission de sélection est désignée par qui ? Par le premier, ministre. Et même le secrétaire permanent, et d'abord, c'est dans le collège que le bureau est élu. Et le secrétaire permanent aussi, c'est le conseil des ministres, n'est-ce pas, qui désigne le secrétaire permanent. C'est la proposition du président de l'autorité indépendante de la transition. Comment est-ce qu'on peut appeler ça une autorité indépendante en réalité ? Ce qui est en train de se passer, il faut le dire. Eh bien, en lieu et place de la correction des insuffisances, en lieu et place des dispositions qui doivent être prises pour que le peuple puisse jouir de son droit de choisir ses dirigeants, en lieu et place, c'est une fabrication d'une machine de fabrication des présidents, une machine de fabrication des députés, des maires, qui est en train d'être faite.
D'accord. Donc vous n'êtes pas contre l'autorité indépendante de gestion des élections, mais le mode de désignation de ses membres ?
Non seulement le mode de désignation de ses membres, mais nous pensons qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de corriger les insuffisances qui ont été annoncées. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un fichier électoral fiable. On n'a pas besoin d'une autorité pour avoir un fichier électoral fiable. Aujourd'hui, nous avons besoin de doter tous les Maliens qui sont en âge de voter des documents administratifs pour voter. On n'a pas besoin d'une autorité pour faire cela. Aujourd'hui, nous avons besoin de renforcer la CENI. La CENI, qui a une mission de supervision, doit avoir aussi une mission de contrôle. Aujourd'hui, nous avons besoin que la justice ne soit pas un simple arbitre, que la justice puisse avoir une responsabilité. Aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Cette autorité va donner un coup à quoi ? À la souveraineté de l'État sur l'organisation des élections.
D'accord. Voilà. Docteur Ibrahim Sangou, êtes-vous d'accord que l'autorité indépendante de gestion des élections ne sera vraiment pas indépendante ?
L'autorité indépendante, à notre sens, n'est pas indépendante. Et ce n'est pas la panacée, comme on dit, aujourd'hui, ce qui intéresse les partis politiques, parce que c'est eux qui concourent à la conquête et à l'exercice du pouvoir, il faut qu'ils soient d'accord avec les formes d'organisation des élections. Et si on prend le protocole additionnel de la CEDAO, on dit 6 mois avant, il faut que les règles du jeu soient définies. Donc qu'on soit d'accord qui organise les élections, qui ne les organise pas. Aujourd'hui, la majorité des partis politiques disent qu'ils préfèrent l'ancien système avec quelques modifications. Donc, ça, c'est le consensus politique. Tant qu'il n'y a pas un consensus politique, on ne peut pas mettre en place l'organe unique. Ensuite, il y a des insuffisances pour la mise en place de l'organe unique. Aujourd'hui, si on veut mettre en place un organe unique qui va avoir les pleins pouvoirs pour organiser toutes les élections, l'organe aura un minimum de 3 mois pour s'installer dans toutes les régions, dans tous les cercles, dans toutes les communes, à l'extérieur du Mali. Donc, ça, c'est un temps. Maintenant, quand est-ce qu'il y aura les élections ? Aussi, on voit qu'on est à 4 mois avant la fin de la transition. Et le problème de l'organe unique du nouveau projet de loi électorale n'est pas tranché parce qu'il y a beaucoup d'attentes qui n'ont pas été prises en compte. Si on prend par exemple le financement public de la campagne électorale, le financement de la campagne, il faut qu'on puisse dire pour être président de la République, il faut dans la campagne électorale investir en moyenne 100 millions. Donc il faut définir des plafonds. Et ça, c'est l'organe unique qui doit le faire. Et si l'organe unique avait bénéficié de l'accompagnement de toutes les parties, c'est ça qu'on voulait.
D'accord.
Aujourd'hui encore, dans le nouveau projet de loi électorale, on parle du mode de scrutin des députés. On dit que c'est la proportionnelle. Or, l'ancien mode de scrutin, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours. La loi électorale est une loi ordinaire. La loi organique des députés n'a pas été changée. Donc, on n'a pas changé la loi organique des députés. Normalement, c'est la loi électorale et la loi organique des députés qu'on devrait changer en même temps pour définir les circonscriptions électorales. Parce que dans la loi organique des députés, qui est une loi organique au-dessus de la loi électorale, et la loi organique des députés dit que la circonscription électorale, c'est le cercle et les 6 communes du district de Bamako. Maintenant, directement dans la loi électorale, on dit non, c'est la région, la circonscription électorale, et c'est la proportionnelle. Sans pour autant rectifier et la loi organique des députés. Donc on ne peut pas aujourd'hui adopter une loi électorale tant que la loi organique des députés demeure à l'État, qui n'a pas été soumise à une révision.
D'accord.
Maintenant, la seule avancée qu'on peut dire pour la loi électorale, c'est la publication en ligne des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et cela, qui est l'organe unique ou bien qui est le statut hanté, s'il y a la publication en ligne des résultats bureau de vote par bureau de vote, cela va contribuer à la transparence des élections.
Donc vous pensez que c'est la seule avancée dans ce projet de loi?
Dans ce projet de loi, c'est la seule avancée. Sinon, l'autorité indépendante aujourd'hui ressemble à la CENI de 1997 qui n'a pas eu l'unanimité, qui n'a pas vécu plus d'une année quand elle a été mise en place.
D'accord. Boulan Barreau, partagez-vous cet avis de Dr Sango?
Ce que je voulais dire clairement, pour moi, c'est encore un projet de loi. Il a des observations à faire, il a des contributions à faire, si je le comprends bien. Donc, pourquoi ne pas verser ça dans les débats? L'initiative, c'est la volonté politique a été
exprimée
par le gouvernement. Forcément, à partir de l'Assemblée nationale, du CNT du moins.
Oui, mais le CNT, est-ce que ça ne va pas être comme une lettre à la poste?
Non, on connaît la procédure quand même au niveau parlementaire. Sans vous laisser mieux que nous tous. Il y a des séances d'écoute qui sont organisées. Ça ne peut pas passer comme ça, comme une lettre à la poste. Mmh. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des commissions thématiques qui sont au niveau du CNT, qui vont ouvrir certainement des séances d'écoute. Et tous les partis politiques doivent être conviés à ces séances d'écoute. Les experts doivent être conviés à ces séances d'écoute. Ils doivent verser. C'est à la monture finale, c'est au niveau du CNT. Et au niveau du Conseil national, la transition. Ils n'ont pas intérêt à ne pas engager un débat autour de ça. Pas tout simplement, c'est les hommes politiques qui sont là-bas. Ils sont de toutes les sensibilités politiques au niveau du CNT. Je ne vois pas comment est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent accepter.
Mais ils ont été nommés.
Ils ont été nommés. En tout cas, ils sont encore militants et responsables dans les partis politiques. Ils sont appelés à défendre l'intérêt des partis politiques au niveau du CNT. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent bâcler une loi électorale pendant qu'on sait clairement que la mauvaise maîtrise des élections nous a conduit à des crises post-électorales. Donc, je dis, l'enjeu, elle est extrêmement importante. Et par rapport... Il ne faut pas qu'on résume tout l'intérêt du projet de loi à l'ordre unique des élections. Il y a d'autres avancées, il l'a si bien dit. Mais pour moi, encore, le débat n'est pas clos, que les gens s'approprient effectivement de cette procédure-là, de réviser la loi électorale, de contribuer à fond pour rendre perfectible cette loi-là.
Alors, Dourachek, des innovations comme le bulletin unique, comme la proportionnelle aux législatives, vous ne pensez pas que ce sont des avancées?
Non, bon, c'est la proportionnelle, oui, les bulletins uniques, ce sont des avancées. Mais moi, je dis toujours, contrairement à mon grand frère du Sénit, j'ai dit que le plus important, c'est surtout l'instrument qui est utilisé, le mécanisme qui est utilisé pour organiser les élections. On me parle des avancées. C'est des avancées qui pouvaient intervenir, qui pouvaient venir même avec les organes et les instruments qui existaient déjà. Ça, c'est possible. Mais la nouveauté, en réalité, le changement véritable de la loi électorale aujourd'hui, c'est l'organe. Et c'est l'autorité indépendante de gestion des élections. Et nous, au niveau du parti, ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe pourquoi? Nous avons dit qu'aujourd'hui, ceux qui sont chargés de gérer les élections, ceux qui étaient chargés, je veux dire, c'est l'administration, la direction générale des élections, la CENI et la justice. La justice était supposée déjà être neutre, indépendante. Eh bien, dans la CENI, les partis politiques, la société civile étaient présents. Eh bien, l'administration est censée être neutre. Eh bien, donc, chacun était dans son élément. Mais qu'est-ce qui a fait défaut? C'est l'application de la loi qui a fait défaut. Ce qui a fait défaut, c'est des forfaitures. Des responsables. Et donc, s'il s'agit de corriger les insuffisances, il fallait aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, le climat politique est tel que la confiance entre la classe politique, entre les partis politiques, et ceux qui ont la charge de gérer aujourd'hui la transition est vraiment problématique. Donc, si on veut aller avec un nouveau système avec une nouvelle structure qui organise les élections, mais dans les mains de cette nouvelle structure-là, tous les pouvoirs, tous les pouvoirs, pratiquement tous les pouvoirs, parce qu'il y a encore la proclamation de certains des États qui restent attachés. Mais quand c'est l'organe unique qui doit recevoir les candidatures, quand c'est l'organe unique qui doit gérer l'organisation matérielle, quand c'est l'organe unique qui doit gérer la gestion de l'aide publique aux partis politiques, quand c'est l'organe unique qui doit recenser les résultats, les proclamer par le bureau du vote, et s'occuper de la centralisation, franchement, cet organe unique-là ne peut pas être installé par le Premier ministre. Or, c'est ce qui, pour le moment, est présenté dans le projet de loi. Le projet de loi, c'est vrai, ce n'est pas la loi déjà finalisée, ce n'est pas déjà la loi adoptée, mais le projet de loi nous informe sur les intentions, de ceux-là qui ont initié le projet. Et ce que nous voyons ne nous rassure pas.
D'accord, mais pourquoi... qu'est-ce que vous vous proposez? Vous aurez préféré que l'organe unique soit, les membres soient désignés par qui?
Aujourd'hui, nous disons aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de renforcer les capacités, les missions de la CENI. La CENI avait seulement une mission de supervision.
Mais est-ce que vous n'avez pas tout le temps contesté les résultats des élections organisées par la CENI?
Je n'ai pas fini. Non, ce n'est pas la CENI qui organise les élections.
Non, l'administration.
Non, je viens. Je vais faire quelques propositions.
Oui.
Il faut renforcer les attributions de la CENI en ajoutant le contrôle à la supervision. Un. Deux, il faut permettre à l'administration de doter notre pays d'un fichier électoral fiable. Ça aussi, ce n'est pas lié à quoi que ce soit. La justice, qui était avant seulement un arbitre, qui ne s'auto-saisissait pas, qui n'intervenait pas pour empêcher, pour punir la fraude, qui attendait être saisie par les acteurs, il faut que cela cesse, que la CENI soit responsabilisée. Donc, je veux dire que la justice soit responsabilisée et qu'elle n'attende pas seulement qu'on vienne en elle et qu'elle prenne des dispositions pour que, comme partout en République du Mali, à chaque fois qu'il y a violation des lois, les procureurs, les gens peuvent s'auto-saisir pour que la loi soit dite. Aujourd'hui, en allant en cela, nous pouvons organiser des élections qui seront moins contestées. Des élections qui seront beaucoup plus fiables, crédibles que dans les temps passés.
D'accord.
Donc ce n'est pas une question, ce n'est pas surtout une question de structure, mais c'est beaucoup plus une question d'application, de respect des textes.
Sur
tout ce qui se passe comme pratique là, il y a déjà des dispositions qui existent, des dispositions réglementaires qui punissent ces pratiques-là, mais qui ne sont jamais appliquées.
D'accord. Docteur Ibrahim Sangou, mais est-ce que la période de transition n'est pas la période idéale pour pouvoir mettre en application les textes, tous les textes qu'on va adopter? Est-ce qu'il doit y avoir de crainte à ce niveau?
Bon, il n'y a pas de crainte. C'est ce que nous, en tant que...
Parce que c'est des autorités qui ne sont pas appelées à se présenter aux prochaines élections.
Oui, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on a toujours voulu que cette transition soit l'opportunité pour changer tous les textes. Et aujourd'hui, si on veut un organe unique...
Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des partis politiques?
Bien sûr. J'ai dit, si on veut un organe unique de gestion des élections, avec toutes ses missions, toutes ses prérogatives, il faut obligatoirement réviser la Constitution du 25 février 1992. Et là, c'est un problème. Maintenant, même l'organe qui est en train d'être prévu dans le projet de loi électorale, ça pose problème, la faisabilité. Et parce qu'il y a un organe unique qui doit faire toutes les élections, qui doit s'occuper de toutes les élections. Et quand est-ce que l'organe, les membres de l'organe seront élus? Parce qu'il y a un temps, il faut que le projet de texte aille au CNT, que le CNT puisse adopter. Donc on va dire peut-être jusqu'en fin décembre, on aura une loi électorale. Et quand est-ce que les membres de l'organe de gestion des élections seront mis en place? Quand est-ce que les démembrements seront mis en place? C'est un problème de temps par rapport au timing qui reste pour la transition. Ensuite, même si le texte arrive au CNT, pour nous, le texte va difficilement passer. Pourquoi? Parce que le texte veut modifier une loi organique, qui est la loi organique des députés, qui n'a pas été revue. Donc, si vous voulez qu'une loi ordinaire révise une loi organique, c'est un problème. Et donc, c'était un travail de relecture globale qu'il fallait faire. Relire la Constitution, relire la charte des partis politiques, relire la loi organique des députés, parce que même le financement des partis politiques, on veut que l'organe gère ça, alors que la charte est là-bas. C'est la charte qui gère ces questions. Donc tant qu'il n'y a pas de relecture globale, on ne peut pas dire qu'on peut arriver à quelque chose. Donc il y a des insuffisances. Et il y a le temps qui reste pour la transition. Normalement, la transition doit finir le 25 mars. Et c'est ça l'inquiétude.
Normalement.
Parce que les partis politiques disent, nous ne sommes pas d'accord avec l'organe unique. Nous ne sommes pas d'accord avec les agences nationales de refondation. Nous sommes d'accord pour que le délai soit tenu. Et le délai pour qu'il soit tenu, c'est avant le 25 mars, faire les élections. Mm-hmm. Donc le statu quo va revenir. C'est-à-dire que le ministère de l'administration va organiser les élections, et la CENI va superviser. Mais en notre sens, si on met dans la loi la publication en ligne des résultats, ça peut gérer beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Parce que pourquoi ? Parce que les gens se plaignent du fait que le ministère traficote les résultats. Les gens se plaignent du fait que la Cour constitutionnelle traficote les résultats. Donc si les résultats sont publiés en ligne, là, ça va avoir le mérite de la transparence des élections et de la crédibilité. Mais encore une fois, c'est les hommes. Même si vous mettez l'autorité indépendante de gestion avec des hommes, c'est des hommes avec leurs faiblesses, avec leurs forces et leurs faiblesses, et ça ne va pas gérer la question. Et le temps de la transition était le temps idéal pour faire toutes les réformes, mais on a perdu assez de temps. Vous savez, il reste 4 mois seulement, on n'a pas avancé dans les réformes.
D'accord.
Et les réformes ne font pas consensus. Et tant qu'il n'y a pas un consensus politique autour des réformes, on ne peut pas arriver de l'avant.
Blamboro, pourquoi certains partis politiques sont toujours, en tout cas, entre guillemets, méfiants par rapport à l'application des textes en cette période de transition,
vous comprenez ? Vous avez rectifié Sango, il dit que les partis politiques ne sont pas d'accord. Non, certains partis politiques ne sont pas d'accord pour leur unique gestion. Certains partis politiques ne sont pas d'accord. Mais apparemment, Sango est coincé encore dans les délais. Il faudrait qu'on parvienne à...
Donc vous pensez que ce n'est pas important, le délai ?
Non, le délai n'est pas important si on veut bien faire. Le délai n'est pas important si on veut mieux faire. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Il ne faudrait pas qu'on se mette ensemble pour dire « Acceptons cette fois-ci encore de tricher les élections. » C'est encore grave. Pour moi, qu'on se donne tout le temps pour éviter une crise post-électorale. Et si on se donne le temps, je pense que toutes ces méfiances, ces inquiétudes qui sont soulevées ça et là, peuvent être dissipées. Mais il faudrait encore, une fois de plus, que nous acceptons de ne pas faire le fétichisme autour du délai de la transition. Parce que qu'est-ce qui se passe ? On nous fait parler de la CENI. Je ne sais pas dans ce contexte de la transition, comment est-ce qu'on peut mettre une CENI fonctionnelle en place ? Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes à une période de la transition. Et cette transition n'est pas tombée du ciel. C'est une transition qui a été conquise. Alors, c'est l'occasion, ça on l'a dit, pour qu'on puisse faire toutes les réformes globales. Maintenant qu'on se donne tous les temps pour bien faire, pour qu'on ne retombe pas dans les travers des élections que nous avons eu à connaître dans le passé. Vraiment, pour moi, encore une fois de plus, tout le monde reconnaît la pertinence de la révision de tous nos textes pour qu'on puisse asseoir une bonne démocratie. Je pense qu'on se donne les délais cette fois-ci pour qu'on ne puisse pas revenir encore tomber dans la crise électorale qui aura d'autres conséquences néfastes pour le pays.
D'accord. Dorachek, au niveau de Sadi, pourquoi vous estimez aujourd'hui qu'il doit y avoir toujours une méfiance par rapport à l'application des textes ? Pourquoi vous ne parvenez pas à vous entendre, à vous asseoir autour d'une même table pour élaborer un texte consensuel ?
D'abord, je dois aussi, permettez-moi de dire que le délai pour nous aussi au parti Sadi, ce n'est pas un problème. Mais nous ne voyons pas en réalité un travail sérieux, un travail conséquent qui est en train d'être fait pour que le Mali puisse retrouver la normalité. C'est ce qui nous préoccupe. Nous avons le droit d'avoir des inquiétudes et des méfiances quand nous voyons le comportement des dirigeants, de ceux qui gèrent aujourd'hui la transition. Quand nous voyons les violations des lois et des libertés qui se passent tous les jours, nous n'avons pas besoin de revenir sur tous les cas, mais nous disons seulement des exemples. Vous êtes de la presse, vous savez que la presse joue un rôle très très important pour une bonne démocratie. Et pour que la presse puisse jouer ce rôle-là, elle doit être indépendante. Indépendante du pouvoir et indépendante des puissances mercantiles, c'est-à-dire de l'argent. Et c'est pourquoi là, il y a une loi qui a été adoptée pour subventionner la presse. Eh bien, ce n'est pas tombé. On ne nous dit pas pourquoi. Cette loi-là est violée. Il y a une loi qui accorde une subvention aux partis politiques, la charte, qui n'est pas accordée. On ne nous dit pas pourquoi. Aujourd'hui, quand vous parlez, quand vous développez des idées contraires à celles qui sont tous les jours propagées par les autorités de la transition et entre guillemets les soutiens, parce qu'un soutien c'est quelqu'un qui est capable de dire que ça ne va pas, ce n'est pas ça la route. Mais malheureusement les soutiens sont devenus au Mali dans le contexte actuel des Béni Oui. Donc c'est fort de tous ces constats-là aujourd'hui que nous sommes obligés de nous poser des questions, que nous sommes obligés d'avoir des inquiétudes, d'avoir des doutes. Et quand nous voyons également ces projets-là qu'on nous présente. Mmh. Normalement, ces projets-là devraient eh bien, montrer aux Maliens que le parti Sadi a eu tort de dire en avance qu'il ne veut pas d'un organe unique de gestion des élections. Mais quand vous lisez le projet, l'article 6 et l'article 15 de ce projet-là, vous allez comprendre tout de suite qu'en réalité, on veut créer un instrument dans les mains des maîtres du jour qui peut-être aujourd'hui ne seront pas candidats, mais pour leur permettre d'installer à la suite des élections eh bien, qui seront organisées dans les jours à venir, d'installer des femmes et des hommes qui sont à leur convenance. C'est ce qui se passe. Et donc, on est obligé d'avoir des inquiétudes. Et ce n'est pas une analyse subjective. C'est une analyse objective fondée sur ce qu'eux-mêmes, ils ont proposé aux Maliens, ce qu'ils ont amené, qu'ils vont amener devant le CNT.
D'accord. Voilà. Docteur Ibrahima Sangou, selon le gouvernement, ce projet va également permettre de réduire les dépenses électorales. Êtes-vous d'accord avec cela?
Bon, si le gouvernement le dit, peut-être qu'ils ont des arguments.
Donc vous n'avez rien dans le texte qui permettrait de réduire les dépenses électorales.
Bon, à notre avis, non, nous ne sommes pas tellement d'accord avec ça. Parce que quand vous voyez l'ancienne architecture électorale, le ministère de l'administration territoriale qui était la chimie ouvrière, avec quand même les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets qui étaient déjà pris en charge par l'État. Et donc, pour les élections, même s'il y a un budget, ce n'était pas un budget aussi considérable que ça. Mais aujourd'hui, quand vous créez un organe unique qui va s'occuper uniquement du processus électoral, ça va demander des charges supplémentaires. Et pour le moins, c'est-à-dire qu'en notre avis, le dilemme aujourd'hui, c'est que le consensus politique n'est pas bâti. Vous savez, pour la conquête et l'exercice du pouvoir, ce n'est pas le rôle des organisations de la société civile, ce n'est pas le rôle des médias, c'est le rôle des partis politiques. Ce n'est pas le rôle aussi de l'armée, c'est le rôle des partis politiques. Et quand les partis politiques, dans leur majorité, ne sont pas d'accord avec quelque chose, difficilement cela va passer.
Alors, quelles peuvent être les conséquences de ce manque de consensus-là?
Et une des conséquences visibles, c'est le report des assises nationales de la refondation. Parce que le président de la République a rencontré la classe politique et il y a une certaine classe politique qui dit on n'est pas d'accord, on ne va pas aux assises. Donc, tant qu'il n'y a pas de consensus, aucune réforme ne peut se faire. Donc, c'est sur la base de ce consensus qu'il faut travailler. Et parlant du délai, nous invoquons le délai parce que c'est mentionné dans la charte de la transition. Aujourd'hui, la charte de la transition a dit 18 mois et c'est 18 mois. Et la charte de la transition, dans son préambule, reconnaît les instruments juridiques internationaux. Protocole additionnel de la CEDAO, Charte africaine de la démocratie. Et la communauté internationale nous attend le 12 décembre. Si on ne déroule pas un calendrier qui va dire quand est-ce que la transition va prendre fin, nous aurons droit à d'autres sanctions. Mm-hmm. Il y a déjà une première sanction. Tous les membres du gouvernement sont sanctionnés, à l'exception du président de la République, du ministre des Affaires étrangères. Et tous les membres du CNT seront sanctionnés. Donc, nous sommes dans une communauté et on ne peut pas mettre dans la poubelle notre engagement au niveau national et international. Mm-hmm. Si nous avons pris des engagements au niveau national et international, il ne faut pas dire après non, on n'est pas d'accord, on va mettre ça à la poubelle. Cela n'est pas, une bonne chose pour nous.
D'accord. Voilà. Boulambaro, sur les assises nationales, pas de consensus. Projet de loi électorale, pas de consensus. Autorité unique indépendante de gestion des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de perdre du temps?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut, on veut nous faire comprendre comme consensus. Quel est le contenu qu'on donne au consensus? L'essentiel, c'est d'exprimer la volonté d'aller vers le consensus. Mais le consensus ne voudrait pas dire l'unanimité. Mm-hmm. Il n'est pas dit que tant qu'on n'est pas unanime sur une question, mm-hmm. on n'a pas le consensus.
Donc, ceux qui ne sont pas d'accord, on peut le laisser.
On ne peut pas les meloter pour qu'ils participent aux assises. Mm-hmm. L'essentiel, c'est d'exprimer, de manifester la volonté à ce que chacun participe. Mm-hmm. Parce que les assises, là, ne doivent pas être un moment de débat de connivence. Il faut avoir des gens en face avec lesquels tu n'es pas d'accord. Il s'agit de ça. Ça doit être un débat contradictoire, un débat dialectique qui, à la suite, on peut tomber d'accord sur quelque chose. Mais si les gens ne veulent pas participer, on n'a pas le choix. Voilà pourquoi j'ai dit que ce projet de loi reste toujours un projet. Il faudrait encore que nous continuions à en débattre et que chacun y mette son sien pour rendre le projet perfectible.
Mais est-ce qu'un tel texte ne pouvait pas attendre les assises nationales, par exemple?
Parce que,
après les discussions, on saura quoi faire.
Non, parce qu'il y a ce problème de délai. Il faut manifester la volonté d'aller à ces élections. Mm-hmm. On peut pas, ces réformes-là ne peuvent pas être forcément liées quand même aux assises.
ça peut-être que les Assises peuvent en débattre. Mais dès lors que le projet est mis en route, mm-hmm. peut-être les Assises peuvent enrichir mm-hmm. avant l'adoption de la loi. Les Assises, au cours des Assises, les gens peuvent en débattre et ça peut être versé dans les débats au niveau du CNT. Mm-hmm. Ça peut, donc c'est une question de timing mm-hmm. qu'il faut très vite aller. Mm-hmm. Mais seulement quand les gens pensent que les autorités actuelles ne sont pas, ne veulent pas, n'ont pas l'intention mm-hmm. de tenir les élections pour sortir de la transition, c'est là aussi où se situe le débat mm-hmm. concernant la loi électorale.
D'accord.
Maintenant, on ne peut pas maintenir la loi actuelle là, comme telle pour dire qu'on veut aller vers des élections transparentes. Mm-hmm. Mais il faut réviser.
D'accord. Dourachek, au niveau du SADI, je sais que vous êtes ouvert au débat. Est-ce que vous serez prêt à faire des propositions pour améliorer ce projet de loi?
D'abord, je dois dire que je serais heureux d'être invité bien ici pour débattre des Assises nationales. Parce que le débat est nettement orienté sur le projet de loi électorale. Sinon, on a beaucoup de choses à dire sur les Assises nationales. D'ailleurs, l'une des résolutions des Assises nationales était déjà proclamée avant les Assises, c'est-à-dire la prolongation du délai de la transition.
Ah bon?
Donc, avant même les Assises, les autorités ont envoyé une lettre à la CEDEAO pour dire qu'on ne pourrait pas tenir.
Ça veut dire que les Assises ne sont plus nécessaires?
Bon, en tout cas, ce qui est sûr là, les problèmes du Mali sont connus, mm-hmm. les solutions sont connues, et aujourd'hui, on a besoin de les appliquer. On n'a pas besoin de dépenser 2,5 milliards pour aller dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mm-hmm. Vraiment, je crois qu'en le disant, c'est montrer qu'on n'était pas au sérieux quand on s'est mobilisé contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ça veut dire qu'on ne sait pas en réalité pourquoi on combattait le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Si on savait bien cela, alors donc il faut aujourd'hui aller à la réalisation, aller à la concrétisation des raisons qui ont fait mobiliser eh bien, tous ces groupes, tout ce monde contre Ibrahim Boubacar Keïta.
Mais est-ce que vous ne devez pas participer à ces assises-là, peut-être, pour évoquer questions comme le projet de loi électorale, pour dire ce que vous ne préférez pas?
C'est ça quoi.
Oui.
La vie n'est jamais assez longue pour eh bien, se donner la liberté, le plaisir de commettre les mêmes erreurs que les autres et espérer avoir le courage et le temps de les corriger. C'est pourquoi on doit s'inspirer des erreurs du passé. Aujourd'hui, eh bien, on a tout simplement besoin de dire que tous les Maliens étaient là, que tout le monde était là et que la majorité a décidé ainsi. C'est ce qu'ils veulent. Nous n'allons pas participer à la dilapidation du fonds public. Nous n'allons pas participer à la perte du temps. Nous n'allons pas participer à cela. Parce que pour nous, ceux qui gèrent aujourd'hui la transition, en tout cas le Premier ministre, était le porte-parole de l'insurrection qui a fait partie de Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce mouvement insurrectionnel-là.
Votre parti faisait partie de ce
mouvement. Oui, ce mouvement insurrectionnel-là est sorti, eh bien, pas contre un homme, mais pour défendre des idéaux, pour combattre des pratiques. S'ils ont le pouvoir, et si, eh bien, le porte-parole a le pouvoir aujourd'hui, il doit tout simplement passer à l'acte. Il n'a pas besoin de dépenser 2,5 milliards.
D'accord.
Bon, donc, d'accord. Moi, je veux dire que par rapport à l'organe unique de gestion des élections, pourquoi il n'y aurait pas de consensus? Est-ce que le manque de consensus, là, aura-t-il des conséquences? Oui. Oui. Parce que le Mali n'est pas un pays isolé. Le Mali a fait des engagements. Et parmi les engagements du Mali, eh bien, nous avons eh bien, les protocoles additifs de la CEDEAO. Parce que quand on parle de protocole additif, les gens prennent souvent seulement l'exemple sur le protocole de 2001 à Dakar. Il y a eu 3 protocoles additifs de la CEDEAO. Et on nous donne l'impression seulement que c'est seul le dernier protocole qui est en vigueur. C'est faux.
Donc,
c'est faux. Donc je veux dire tout simplement que... eh bien, selon les dispositions de la CEDEAO, pour qu'un pays membre de la CEDEAO à 6 mois des élections puisse réviser la loi électorale, il faut que cela soit fait dans le consensus vraiment absolu. Absolu.
D'accord. Ok, voilà. Docteur Ibrahim Sango, vous avez émis une réserve qui est le fait que la proclamation des résultats reviendra toujours à la Cour constitutionnelle, même avec ce projet de loi. Pourquoi vous avez des réserves par rapport à ça?
Non, c'est ce qui est dans la loi, c'est ce qui est écrit dans le nouveau projet de loi pour dire que c'est la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs.
Pourquoi vous avez des réserves sur ça?
ça pose problème. Ça pose, quand on voit l'histoire des élections au Mali de 92 à aujourd'hui, le fait que la Cour constitutionnelle proclame le résultat définitif a toujours posé problème. Deux exemples. En 2002, quand la Cour constitutionnelle a reçu 2 millions de voix, elle a annulé plus de 500 000 voix. Et il y avait 1 500 000 voix qu'elle a réparties entre le président ATT qui était premier, le Soumaïla Cissé qui était deuxième, Ibeka qui était troisième. Il y avait avoir une crise post-électorale, mais la solution politique a été que ATT a été président de la République pendant 5 ans, Ibrahim Boubacar Keïta a été président de l'Assemblée nationale pendant 5 ans, Soumaïla Cissé a été commissaire de l'UEMOA pendant 5 ans. Donc ça, c'est les arrangements politiques. Et si on prend 2020, ce qui s'est passé, c'est la Cour constitutionnelle. Les gens qui sont pleins du ministère, ils sont au nom de 39 députés, ceux qui sont pleins de la Cour constitutionnelle, 29 députés, mais c'est véritablement à cause de la Cour constitutionnelle que les gens sont révoltés. Donc la transition devrait permettre de corriger cela. Mais on a perdu du temps et on n'a pas fait grand-chose. Et aujourd'hui, il reste 4 mois, on veut refaire un organe unique qui ne satisfait pas la demande des partis politiques. Ça ne satisfait pas la demande. C'est l'organe unique qui est en train d'être créé aujourd'hui, c'est comme la CENI de 97. Et c'est, si on crée un organe unique avec une loi, et l'année prochaine, on pourra dégommer facilement cet organe unique. Donc, ce n'est pas la solution. Il faut aller dans les réformes en profondeur. Si la transition ne permet pas d'aller en réforme en profondeur, il faut sortir vite de la transition et que les nouvelles autorités légitimes puissent engager le peuple malien dans des réformes profondes. Sinon, il ne reste que 4 mois. Et si les autorités veulent changer la durée de la transition, c'est possible aussi avec la charte. Il faut, le président de la transition, avec un tiers du CNT, peuvent changer la durée de la transition. Qu'il le fasse. Mais il ne faut pas qu'on nous donne des subterfuges pour dire que c'est les assises nationales qui vont déterminer le calendrier électoral, ceci, cela. La communauté internationale nous attend le 12. Si le 12, on n'a pas de calendrier électoral, il y aura d'autres sanctions et ce n'est pas bon pour le Mali.
Boulam Baro, vous semblez ne pas être très inquiet
par rapport aux inquiétudes qui sont soulevées au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui. Lui-même, il a signalé ici que les bureaux de vote, que les résultats seront publiés en ligne, bureau de vote par bureau de vote. Je pense qu'à partir de ce moment, ça peut quand même amener la Cour constitutionnelle à être plus regardante par rapport à cet aspect-là. Je pense que ça, c'est des questions, des solutions palliatives qui sont prises quand les bureaux de vote, quand les résultats sont publiés, bureau de vote par bureau de vote en ligne. Je pense clairement que ça peut prendre en charge certaines inquiétudes liées à la proclamation définitive des élections.
Donc cela pourrait nous éviter des tripatouillages au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que ce texte passe devant le CNT comme ça avec tout ce bruit autour des gens qui ne sont pas d'accord?
Pas seulement au CNT. Moi, je pense qu'avant même que ça n'arrive au CNT, le CNT, ce n'est pas autre chose. Ils sont tous dans les partis politiques. Ils sont sur les responsables. Nous devons continuer, comme vous le faites déjà, à instaurer un débat sur cette question-là, parce que c'est vital quand même pour notre démocratie. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement une affaire du CNT. C'est une affaire de nous tous. Si nous voulons effectivement qu'on veut faire au moins une élection acceptable pour qu'on ne tombe pas dans des crises post-électorales. Je pense que nous devons tous nous investir davantage pour rendre, je dis bien une fois de plus, perfectible la loi à l'adoption.
D'accord. Dourachek, on termine par vous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'il puisse y avoir en tout cas un minimum de consensus sur certains points essentiels, en tout cas cruciaux pour la gestion de l'État, par exemple la loi électorale?
Il faut d'abord dire que le CNT n'est pas majoritairement constitué des partis politiques. Il faut le dire. Vraiment, le CNT est majoritairement constitué, si je dois me baser sur ce que l'actuel Premier ministre a dit, est constitué des militaires, des parents, des relations, des proches. Voilà. Et le CNT, on ne peut pas compter sur le CNT pour améliorer ces projets de loi. Ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir un minimum de consensus. Eh bien, nous, au niveau du parti SADI, nous avons réfléchi et nous proposons ce qui suit. Aujourd'hui, il faudrait que les autorités qui sont en place, qui ont la responsabilité de gérer la transition, comprennent qu'on ne peut pas perpétuer ce qui a été l'objet des manifestations contre les régimes du PK. C'est-à-dire arrêter avec les violations.
Ne pas continuer de commettre les erreurs.
Et donc cela va mettre les acteurs en confiance. Et ainsi on pourrait mobiliser les Maliens autour du minimum. Et ce minimum-là, c'est quoi aujourd'hui? C'est trois choses. Assurer la sécurité, doter le pays d'un fichier électoral fiable. et les autres propositions que nous avons faites et organiser les élections eh bien, dans un délai raisonnable.
D'accord, dans un délai raisonnable, à... voilà. Les élections dans un délai raisonnable, c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui du projet de loi électoral adopté la semaine dernière par le Conseil des ministres. Que dit ce texte avec nos invités, nous en avons parlé. Ils étaient au nombre de trois, Boulan Barreau du parti Sénide, Dora Cheikh Diarra du parti Sadi et Dr Ibrahima Sango de la Synergie 22 Consortium d'organisation qui observe les élections au Mali depuis plusieurs années. À la présentation de cette émission, Sekou Gadjigo, à la régie vidéo Salim Diouara, mise en onde Adjiratou Traoré. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri.
Halou Dumondi.
Chienne Beri.
Sigi Kafoba.